Pourquoi la politique étrangère française est-elle marquée par la fascination russe, et ceci depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale? Quelle est cette Russie que nous ne voulons pas voir? Comment affronter la réalité et sortir de la fascination? Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction russe de RFI, auteure de l'ouvrage « La fascination russe ». Cet ouvrage explore les racines de la politique pro-russe en France et cherche à regarder le régime russe en face. Bonjour Elsa, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien pour le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Vous êtes rédactrice en chef de la rédaction russe à RFI et vous êtes auteur de l'ouvrage qui vient de sortir en France qui s'intitule « La fascination russe ». Alors ma première question à vous serait, qu'est-ce que vous appelez déjà la fascination russe? Comment est-ce que ce phénomène se manifeste-t-il dans la société française et surtout, ce qui est très intéressant, au niveau de la classe politique et qui prend des décisions?
Eh bien, en France, la fascination russe dans la population, elle se manifeste tout d'abord dans une vision du monde où il y aurait entre deux grandes puissances héritées de la guerre froide, les États-Unis et la Russie, la France qui jouerait un rôle de puissance médiatrice et qui donnerait d'ailleurs une préférence à la Russie, tout d'abord pour équilibrer la superpuissance américaine, perçue comme dangereuse pour la souveraineté nationale. Et cette préférence donnée à la Russie, elle s'exerce aussi au niveau européen en faisant préférer à la France et à ses dirigeants le dialogue avec les dirigeants russes plutôt que le dialogue et la loyauté vis-à-vis d'autres pays membres désormais de l'Union européenne et pour partie de l'OTAN, qui sont ceux qui forment avec nous les 27 États membres de l'Union. Et ça a pour conséquence également de faire prononcer des phrases comme la Russie est une voisine et elle ne va pas déménager. Dans cette phrase, on se rend compte que les dirigeants, quand ils la prononcent, ont l'impression que les frontières françaises et les frontières russes sont communes et ils font complètement abstraction de l'existence d'États libres et souverains entre le territoire hexagonal et le territoire russe, dont ils ont peine à comprendre les identités, les trajectoires et qu'ils ne se représentent pas comme des partenaires stratégiques. Je pense que ce qui nous éclaire beaucoup sur ces représentations, c'est le fait que, typiquement, lorsque nous avons construit l'élargissement de l'UE à ces pays d'Europe centrale et orientale, notamment, et à d'anciens pays de l'URSS, nous avons construit avec eux une politique de voisinage et avec la Russie un partenariat, car les dirigeants russes que nous avons approchés faisaient très clairement comprendre à nos diplomates qu'ils ne souhaitaient pas être un voisin, ils souhaitaient être un partenaire stratégique. Les États qui se trouvent donc entre la France et la Russie sont des États compris jusque-là comme des États de second ordre. Et je pense qu'il y a dans cette conception une affinité d'ancien empire à ancien empire et beaucoup de nostalgie pour la grandeur soi-disant perdue de la France.
Oui, tout à fait. La grandeur de France que vous évoquez très souvent dans les pages de votre ouvrage. Et vous parlez beaucoup aussi de l'héritage de Général de Gaulle dans l'histoire relativement récente, dans l'histoire du XXe siècle. Pourquoi est-ce que la figure de Charles de Gaulle est tellement une figure de clé pour cet imaginaire politique et qu'on retrouve en France beaucoup plus que dans d'autres pays voisins de ce qu'on appelle la vieille Europe? Voilà.
Alors, effectivement, en France, on se trouve face à une figure de la politique qui projette une ombre dont il est extrêmement difficile de sortir quand nous parlons en particulier des relations entre la France et la Russie. C'est effectivement le général de Gaulle. Et pourquoi? Parce que cette fascination russe, elle s'exerce en particulier sur la droite française et les droites gaullistes tout particulièrement. Cette figure du général de Gaulle, ce qui est particulier en plus de, en quelque sorte, l'emprise incontournable de celle-ci sur le champ politique, c'est qu'elle se fait en méconnaissant toute une partie de son héritage ou de ses prises de position. Et c'est ce qui m'a particulièrement semblé paradoxal, au sens où, dans le débat concernant les relations franco-russes, on se rappelle ou on évoque la figure du général de Gaulle essentiellement pour faire référence à sa politique d'équilibre vis-à-vis des États-Unis, c'est-à-dire à sa capacité à développer une relation avec l'Union soviétique, une relation qui a d'abord consisté en des échanges scientifiques ou techniques, mais on occulte complètement la dimension stratégique, militaire et politique qui veut que tout de même le général de Gaulle ait su faire preuve d'une très grande fermeté vis-à-vis de l'Union soviétique lorsqu'il jugeait que celle-ci menaçait la paix internationale. Je prends deux exemples dans ce livre qui ne sont jamais cités par les partisans d'une relation privilégiée entre la France et la Russie. Le premier exemple, c'est celui du 5 septembre 1961, une conférence de presse donnée par le général de Gaulle à l'Élysée lors de la crise de Berlin. Dans cette conférence de presse, le président de la République exprime très clairement le fait que face à l'impérialisme soviétique, il est absolument indispensable de faire face et de ne pas se laisser intimider, faute de quoi l'agressivité soviétique serait renforcée. Cette conférence est systématiquement passée sous silence. Tout comme est passée sous silence la position du général de Gaulle dans la crise des missiles de Cuba en 1962. À l'occasion de cette crise, le général de Gaulle a été un allié extrêmement loyal de l'Alliance Atlantique. Lorsqu'il a été convaincu que l'Union soviétique avait effectivement disposé des têtes nucléaires sur Cuba en direction des États-Unis. Et on oublie aussi, au décours de cette dispute internationale qui a été la crise la plus tendue autour de la question nucléaire dans le monde, que en 63, face à l'ambassadeur soviétique à Paris, le général de Gaulle avait répondu que si jamais les Russes décidaient, les Soviétiques, pardon, une erreur à ne pas faire, les Soviétiques décidaient de recourir à l'arme nucléaire, alors la France se verrait contrainte de faire de même et que dans ce cas-là, nous mourrions tous ensemble. Donc le général de Gaulle n'a jamais eu peur de recourir à la rhétorique de la dissuasion nucléaire, ni de faire preuve de fermeté face à ses interlocuteurs soviétiques. Il n'empêche qu'il a aussi utilisé la relation avec l'Union soviétique pour soutenir la croissance économique de la France et pour trouver des débouchés, et parfois pour avoir un allié pour contrer les États-Unis quand les stratégies américaines ne convenaient pas aux intérêts nationaux français. Mais cet aspect-là, cet aspect d'un général absolument capable de faire front devant l'agressivité soviétique est systématiquement laissé dans l'ombre par ceux qui s'en servent au contraire pour justifier une alliance préférentielle de la France avec la Russie.
Oui, tout à fait. Donc après Général de Gaulle, il y a bien sûr d'autres chefs d'État que vous passez en révision en quelque sorte, parce que votre premier chapitre, qui s'intitule Paris préfère Moscou, vous parlez bien sûr de président actuel Emmanuel Macron, mais vous parlez tout aussi bien de Mitterrand, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy et de François
Absolument.
Hollande. Et donc ce qui apparaît dans vos pages, c'est que avec une exception selon vous, avec une exception de François Hollande, tous les autres après, voilà, donc Mitterrand, Chirac, Sarkozy, tous avaient une certaine, voilà, ce privilège pour la Russie. Et donc François Hollande, qui entre, qui occupe son poste de président justement au moment crucial de l'agression russe, notamment en Ukraine, c'est une histoire qui nous est très familière, parce que c'est justement les accords de Minsk, le format Normandie, tout ceci, ça passe
Absolument.
sous la présidence de François Hollande. Donc pourquoi cette figure de François Hollande fait exception.
Alors, la figure de François Hollande fait exception dans le panorama des présidents français qui se sont succédés depuis 1991, en ce que c'est le seul qui, de manière très explicite, a été et a fait preuve d'une grande indifférence aux techniques de manipulation ou aux techniques de pardon, d'intimidation du président russe Vladimir Poutine. Et c'est le seul qui a pu l'exprimer de manière extrêmement claire et qui définit l'approche mise en œuvre par le président Vladimir Poutine en disant qu'il s'appuie sur un cocktail composé d'un tiers de charme, d'un tiers de brutalité et d'un tiers de mensonge. Et c'est un cocktail qui, jusque-là, avait plutôt parlé à certains de nos présidents qui, peut-être y a-t-il un lien d'ailleurs avec votre première question, à la recherche d'un homme fort, s'était trouvé favorablement impressionné par le personnage de Vladimir Poutine, en tout cas le personnage que ce dernier a construit et la manière dont il a construit son aura de président de la Fédération de Russie. Et moi, je risque une hypothèse, je dis que François Hollande, c'est sans doute en raison de sa culture socialiste, héritière de la SFIO, qui ne s'est pas montré perméable à cette forme d'influence et qui a au contraire conçu une relation avec Vladimir Poutine qui n'était pas basée sur une affinité. Ensuite, il y a effectivement les accords de Minsk que vous mentionnez. Alors, François Hollande a effectivement conclu les accords de Minsk, en tout cas, il était président à cette période. Et les accords de Minsk ont été conclus, selon sa parole, essentiellement pour préserver l'Ukraine du point de vue militaire. Donc, ils ont été conclus dans une situation d'infériorité militaire, ce qui, malheureusement, fait qu'ils étaient, dans leur esprit, défavorables à l'Ukraine. Ce que je retiens aussi de la présidence de François Hollande, en dépit de cette situation sur les accords de Minsk, c'est d'avoir décidé que la France ne pouvait pas honorablement honorer un contrat qu'elle avait conclu avec la Russie, en la personne de Nicolas Sarkozy, lorsqu'il a été décidé que la France procéderait à la vente de deux navires de guerre, deux BPC de classe Mistral, alors que ce contrat avait été conclu juste après l'agression russe sur la Géorgie et qu'il n'était pas possible, alors même que la Russie déstabilisait et commençait une guerre en Ukraine, de leur livrer ces matériels de guerre qui auraient permis à l'agression russe de remporter un succès rapide et flagrant.
Oui, tout à fait. Donc, cette histoire de la Géorgie qui précède l'épisode, le grand épisode ukrainien, mais avant, il y avait aussi l'histoire de Moldavie, où d'ailleurs vous traitez beaucoup
Absolument.
dans vos pages sur ces deux guerres de Tchétchénie, dont vous avez une connaissance profonde, justement deux guerres qui ont été traitées, été vues par la classe politique française comme une affaire intérieure, ce qui, on peut
Absolument.
imaginer, comme révoltant, étant donné la cruauté, étant donné voilà, les
Les
tortures, les
violations.
meurtres, les violations des droits de l'homme et tout ceci. Donc, cette incapacité française que de voir les autres, hein, à part la Russie, qui s'en sort. Donc, c'était voilà, c'était une histoire qui était là. Quand vous parlez de Emmanuel Macron, donc bien sûr, voilà, vous le classez aussi parmi des présidents plutôt pro-russes, surtout au départ. Vous parlez beaucoup longuement sur cette philosophie, cette approche de reset. Reset, ça veut dire voilà, une relation, voilà, relancer des relations avec Moscou. Pourtant, ici, avec Emmanuel Macron, qui est déjà son deuxième terme de la présidence, on voit certains changements aussi, puisque voilà, les déclarations tout à fait récentes d'Emmanuel Macron, qui bien sûr ne font pas partie de votre livre, parce que le livre était écrit et publié avant, mais on voit actuellement qu'il y a quand même une leçon tirée, sans doute, par Emmanuel Macron, parce qu'il y a des déclarations dans le sens que la France pas exclure même l'emploi de troupes occidentales sur le sol ukrainien, même si cette déclaration est assez floue, il est pour l'instant vide de actions concrètes, mais voilà, ça, on a l'impression d'entrer dans une phase un peu nouvelle, n'est-ce pas?
Absolument.
Voilà. Donc, quel serait votre commentaire?
Mais écoutez, je pense que Emmanuel Macron, et c'est peut-être quelque chose qui est typique de sa manière de faire de la politique, est un homme qui peut évoluer très vite dans ses positions, et en tout cas évoluer radicalement dans ses positions. Et il me semble qu'il y a vraiment un avant et un après dans la position de la France, durant les présidences d'Emmanuel Macron. Au sens où c'est le président qui commence par vouloir faire une relance des relations avec la Russie, là où le président Obama avait échoué, en quelque sorte, et que, à partir de Bratislava, donc à partir de juin 2023, la position française entre dans une nouvelle phase et quitte l'orbite, j'ai envie de dire, pro-russe, pour définitivement, je l'espère, faire le choix des alliés européens et des membres de l'Union européenne qui sont eux aussi menacés par l'impérialisme russe et pour prendre très fermement parti pour l'Ukraine et enfin nommer la nécessité d'une victoire ukrainienne et d'une défaite russe dans la guerre actuelle. Ce que je retiens de cette évolution, c'est que la France est passée en quelque sorte du peloton, enfin, par ses pardons, du peloton de la queue de peloton dans le domaine de la défense des Européens et de l'Ukraine, et subitement à l'avant-garde pour la défense de l'Ukraine et de la sécurité européenne. Ce qui est pour moi, malgré tout, et le facteur permanent dans ces deux positions, c'est que nous sommes un peu isolés actuellement à l'avant-garde, tout comme nous étions isolés il y a encore quelques semaines en queue de peloton. Mais nous avons fait un changement radical, on a changé de pied en position internationale sur la question ukrainienne. J'espère que ce changement sera durable et j'espère que la France va mettre sa capacité diplomatique, son capital diplomatique, au service d'une solution à la guerre en Ukraine qui soit favorable à l'Ukraine, quelle que soit la décision ukrainienne d'une négociation ou d'une victoire militaire, alors qu'avant le capital politique de la France pouvait passer pour être au service d'un dialogue avec Moscou. Et ça, c'est quand même un changement significatif, mais dans le livre, je parle pour Emmanuel Macron de la longue marche vers l'Ukraine, et je crois que c'est véritablement ce qui s'est passé.
Oui, tout à fait. Et donc, tout ceci, ça passe aussi dans le contexte assez inquiétant des choses qui se passent aux États-Unis, puisque la position française vis-à-vis de la Russie se précisait souvent, hein, aussi comme vous le dites dans votre livre, en fonction de cet imaginaire sur les États-Unis qui était souvent négatif. Alors, actuellement, nous assistons à une période très turbulente, n'est-ce pas, de cette élection présidentielle aux États-Unis qui a déjà commencé et qui fait. Donc, il y a les risques de l'élection de Donald Trump. Or, on connaît, il y avait des déclarations de Donald Trump par rapport à l'OTAN aussi, donc pas uniquement sur la question ukrainienne, mais voilà, donc cette longue période d'une certaine exportation, on va dire, de la sécurité vers l'Europe depuis les États-Unis. Donc cette époque peut prendre fin très rapidement. C'est une des raisons aussi qui motive Emmanuel Macron, président de la République française, de changer les positions parce que les Européens peuvent réellement se retrouver tout seuls face à la Russie sur notre continent européen, sans que les Américains nous défendent.
Oui, tout à fait. Il y a une évolution du contexte international qui est tout à fait décisive. Et dans ce contexte international, notamment, le fait que les États-Unis semblent être entrés dans un moment où ils pourraient choisir de se retirer de la vie internationale et de la sécurité en Europe. Et Emmanuel Macron, qui a depuis longtemps été le partisan du développement d'une défense européenne ou d'une politique de défense européenne, saisit ce moment à la confluence entre un potentiel retrait américain et la guerre en Ukraine du fait de l'invasion russe pour reprendre l'initiative et enfin proposer que les Européens se saisissent de leur destinée stratégique et étrangère et se constituent en puissance. C'est véritablement un pivot historique pour l'Europe et pour la France, puisque comme vous l'avez souligné, la relation que la France entretient avec la Russie est essentiellement pensée pour contenir ou équilibrer une influence américaine. C'est véritablement quelque chose qui est une forme quasiment d'invariant de notre politique étrangère et de notre conception de notre place dans le monde. Le retrait ou le recul américain peut amener donc à un changement durable et ce changement, ce serait de voir l'émergence d'un véritable pôle de puissance européen dans laquelle la France serait à l'initiative et qui nous permettrait non plus de nous penser comme en danger du fait de la puissance américaine ou en danger du fait de l'influence russe, mais comme un acteur essentiel de la sécurité européenne et même comme un acteur qui partage sa force de dissuasion nucléaire avec les autres partenaires et alliés européens. C'est véritablement un changement de paradigme fondamental.
Oui, c'est un changement absolument fondamental puisque ça renverse en quelque sorte l'histoire. J'étais frappée d'ailleurs en lisant votre livre, donc qui est très minutieux, qui livre énormément de détails historiques qui sont déjà quelque part oubliés. J'étais frappée par cette inertie, en quelque sorte, que vous constatez dans l'imaginaire du monde politique français. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, quand vous parlez de la guerre en ex-Yougoslavie, vous parlez de cette position sur la Serbie, la position française sur la Serbie. Vous expliquez que, voilà, ces réticences, cette non-volonté d'agir d'une manière plus active contre la Serbie, ça s'expliquait, entre autres, et d'une manière assez importante, par l'histoire de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est-à-dire qu'il y
Absolument.
a cette inertie qui est là, et donc, vous remarquez vers la fin de votre livre, vous marquez vous-même ce décalage, voilà, ce sentiment qui vous habite, ce sentiment de décalage entre, une part, le passé historique qui est là, donc on ne peut pas le nier, il est là, mais d'autre part, la réalité qui est tout autre. Actuellement, donc le monde change et donc c'est une certaine inertie, une certaine lenteur, je dirais, de la réaction de la classe politique vis-à-vis de la réalité qui devient tout autre. Et donc, voilà.
Oui, je pense que vous avez mis le doigt sur justement ce sentiment étrange face au décalage entre les représentations qui sont à l'œuvre et les réalités auxquelles nous sommes confrontés. Et alors, quand j'ai exploré les origines de justement de ces sentiments et de ces représentations, dans le cas de la Serbie, comme vous le dites, je me suis heurtée à cette alliance que nous avons eue avec les Serbes et même cet épisode historique où nous sommes venus au secours de l'armée et de la population serbe lors de la Première Guerre mondiale, qui explique une partie de notre attachement aux Serbes d'aujourd'hui. Pourtant, comme vous le soulignez, il y a près de 80 ans, parfois 100 ans, qui nous séparent de ces épisodes. Alors, comment expliquer ce fossé entre les représentations historiques héritées et les réalités auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, qui sont tout autres? Pour moi, une première hypothèse d'explication, c'est d'abord la permanence, c'est l'âge de nos dirigeants et l'âge des conseillers de nos dirigeants. C'est que nous sommes généralement conseillés par des hommes, des diplomates, des politiciens, des universitaires, qui sont nés dans l'après-Seconde Guerre mondiale pour la plupart, parfois un peu avant, et qui ont été éduqués dans l'ombre de ces événements qui étaient structurants à leur époque et qui constituaient, pardon, presque l'histoire du présent. Et donc, il y avait une immédiateté et une pertinence immédiate pour l'analyse et la compréhension du monde. Or, 70 ans ou 60 ans plus tard, ces représentations sont toujours actives puisque ce sont les mêmes hommes qui conseillent nos dirigeants, pour la plupart, et qui ont modelé l'histoire de notre pays. Et ces représentations ne sont plus adaptées au monde contemporain, mais elles constituent un filtre qui nous empêche de prendre la bonne mesure des événements et des enjeux actuels.
Voilà, et donc la dirigeance de Emmanuel Macron, qui ne fait pas partie de cette génération qui était née dans la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, donc son âge relativement jeune, hein, surtout pour non
Tout à
seulement de
fait.
Emmanuel Macron, mais aussi de ses collègues. Ces ministres qui sont pour la plupart, voilà, cette nouvelle génération, ça, c'est un facteur plutôt positif pour le changement, comme vous dites, de paradigme pour ce qui concerne les relations extérieures. Vous consacrez toute la deuxième partie de votre livre, intitulée La Russie vue de Paris, faux semblants et confusion en série, voilà, à déstructurer d'une manière très, très, très cohérente tous les mythes qui existent en France par rapport à la Russie, donc le charme de la Russie alliée. Toujours le mythe de la puissance russe. Vous faites ça avec beaucoup de patience. Et donc, vous terminez par dire que la Russie que nous ne voulons pas voir. Alors, voilà, cette Russie qui vous connaissez en tant que chercheuse, vous avez enseigné, n'est-ce pas, en Russie pendant un certain temps. Vous avez des réseaux, des amis, des collègues en Russie. Donc, quelle est la Russie que la France ne veut pas voir?
Eh bien, moi, je pense que la France et tout particulièrement les dirigeants, mais aussi le corps diplomatique français pour certains, n'ont pas voulu regarder la Russie à hauteur d'homme et à hauteur de société. Ils n'ont pas choisi de regarder la Russie en tant que régime et en tant que contexte, environnement dans lequel des citoyens, notamment russes, sont amenés à agir. Et donc, on néglige la nature à la fois sociologique, mais aussi la gouvernance politique qui s'exerce en Russie, et notamment la place prise par la violence dans le système politique russe et par la brutalisation de la société, et la manière dont la violence et la brutalité sont élevées au rang de mode de gouvernement. Et ça, c'est quelque chose que nous avons délibérément choisi d'occulter. Pourquoi? Parce que ça permettait de faire passer toute la partie répressive du régime, tant en Tchétchénie pendant les deux guerres, que vis-à-vis de la population russe dans son ensemble par l'appareil répressif qui se développe très activement depuis au moins 2012. Cela permettait de le faire passer pour des affaires intérieures et ne pas avoir à nous positionner vis-à-vis de ces violations quasi systématiques des droits de l'homme et des engagements internationaux de la Russie. Donc nous avons préféré considérer la Russie comme un État avec lequel nous avions des intérêts communs en faisant l'économie du développement d'une vision militarisée, agressive et dominatrice de la politique en Russie vis-à-vis des citoyens russes, mais qui ne pouvait pas manquer de commencer à s'exprimer à l'extérieur du pays. Et nous n'avons jamais voulu voir un schéma dans l'ensemble des guerres coloniales que la Russie, dès 1992, a commencé à mener vis-à-vis de ses voisins dont elle entendait contrôler le destin. Donc c'est pour moi essentiellement en raison de cette affinité que nous avons développée vis-à-vis de la Russie en tant qu'ancien empire qui ne veut pas mourir, que nos dirigeants ont préféré considérer la Russie comme une puissance avec laquelle nous pouvions faire des affaires et nous allier en confiance, alors que la montée en puissance en Russie de la violence avait déjà commencé à s'exercer à l'extérieur des frontières.
Et malheureusement, cette agression et cette violence, nous avons pu, nous les Ukrainiens, nous avons pu le constater de nos propres yeux, notamment dans cette guerre totale qui est menée depuis février 2022 ici, donc avec des tortures, avec des viols, avec des destructions des villages, des maisons qui dépassent en quelque sorte même les objectifs militaires. On se pose la question, mais pourquoi tout détruire? Et donc, je me rappelle nos collègues de peine d'Ukraine se sont rendus dans la région de Kharkiv la semaine dernière et ils ont envoyé des photos d'une inscription faite par des soldats russes sur une maison d'un village dans cette région de Kharkiv. Et donc, c'était là ce qui était écrit par un soldat russe, c'est que ce n'est pas un crime de guerre si toi, tu as eu le plaisir de le faire. Donc, cette relation, voilà, quelque part, voilà, sauvage, hein, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas un crime de guerre si toi, tu as eu le plaisir. Donc, ça, c'est quelque chose qui dépasse le cadre habituel, n'est-ce pas, de comment on voit la culture russe. Donc, je me rappelle aussi de Maître Kouliba, notre ministre des Affaires étrangères, juste à la veille de l'invasion, il disait donc, voilà, que tout le monde parle de ballet russe, de ballerines russes, mais nous, malheureusement, on ne voit pas le ballet russe, on voit des chars russes qui s'amassent à notre frontière. Et donc voilà, voilà, ce chapitre où vous développez, voilà, sur cette violence qui est propre, qui est structurelle, elle est absolument nécessaire pour le public occidental.
Oui, je pense qu'il y a la dimension de la violence que vous évoquez. Elle est centrale au sens où elle fait référence à un mode de relation entre la puissance politique et les citoyens qui est extrêmement verticale, dominatrice, où la puissance est structurante et la violence est là pour signifier le contrôle total sur l'environnement. C'est comme si on était dans un moment de désinhibition de la violence, et cette violence, elle est là pour signifier le contrôle sur le territoire et les populations. Le contrôle, c'est de deux choses l'une, soit la capacité à faire faire, soit la capacité à détruire. Et dans la contestation que le pouvoir de Vladimir Poutine est en train de mettre en œuvre, contestation de la puissance occidentale et du modèle démocratique, la violence occupe une place cardinale. Pourquoi? Parce que dans le modèle démocratique, nous demandons aux individus et nous éduquons les individus pour qu'ils limitent l'espace de leur pouvoir, leur pulsion de violence et leur volonté de puissance, de manière à ce que nous puissions vivre ensemble de manière pacifiée. Dans la contestation du modèle démocratique par les dirigeants russes, il s'agit au contraire d'attirer des soutiens en proposant à ceux qui les rejoignent de pouvoir jouir d'une capacité de contrôle et donc d'exercice de leur violence totale. Et c'est à ce niveau-là, je pense, que s'exerce une forme aussi d'attraction sur les populations et dans nos modèles, dans nos sociétés occidentales et démocratiques, parmi les segments de nos populations qui sont mécontents de la politique de nos gouvernements respectifs et qui voudraient les renverser et qui, frustrés, voudraient pouvoir aussi exercer leur contrôle et leur violence. Et c'est en ça que le modèle russe est particulièrement dangereux et c'est en ça que le modèle russe est également en train d'essayer de déstabiliser nos démocraties. C'est la violence et la levée de l'interdit de la violence qui est au cœur de cette entreprise politique à l'heure actuelle. Je ne dis pas qu'il en a toujours été ainsi, je ne dis pas qu'il en sera toujours ainsi, mais avec ces dirigeants-là, c'est le programme politique qu'ils ont mis en place et qu'ils sont en train de mettre en œuvre.
Voilà, et cette violence, elle s'accompagne aussi de non-respect de ce qu'on appelle le droit international, qui peut paraître abstrait, mais qui est d'ailleurs tout à fait concret. Ce qu'on oublie souvent quand on parle de cette guerre russe contre l'Ukraine, c'est que la Russie avait reconnu, n'est-ce pas, l'indépendance de l'Ukraine dans les frontières
Absolument.
de 91. Donc, et aujourd'hui, quand on entend, par exemple, Dmitri Medvedev ou bien Vladimir Poutine dire que l'Ukraine, c'est un pays artificiel, que oui, c'est une zone, ils étaient toujours russes, et alors ils ne peuvent pas être que russes. La même chose pour Géorgie, c'est-à-dire que toutes ces reconnaissances des frontières, elles étaient accomplies, ce n'est pas que la Russie n'avait pas reconnu. Donc cette manière de procéder, d'accepter, et puis de violer pas la parole, mais l'accord donné, c'est-à-dire que bien sûr que la chute de l'URSS était un moment pénible pour la Russie parce qu'elle cessait en quelque sorte d'être un pire, même si elle reste. D'ailleurs, vous écrivez dans votre livre sur tous les peuples qui existent en Russie que c'est pas du tout un État-nation.
Non.
C'est une formation étatique qui est composée de plusieurs peuples. Et donc, c'est en quelque sorte toujours cette présence de peuples, n'est-ce pas, comme on considérait l'Union soviétique.
Absolument.
Voilà. Mais donc, voilà, donc c'est ce non-respect, voilà, de la lettre de la loi internationale, en faisant de ça une lettre morte. J'ai beaucoup aimé votre passage. Vous décrivez la différence, comment on traite la politique en Russie. Et les accords, les négociations en Russie, et comment ça se fait dans le monde occidental. Vous expliquez que justement, en Russie, voilà, donc en Occident, la chose dite est presque la chose faite. Tandis que en Russie, donc les conférences de presse, voilà, les thèses annoncées publiquement, c'est une chose, alors que ce qui se passe réellement, c'est derrière les rideaux, voilà, à huis clos, puis les arrangements, etc. Tout ceci, bien sûr, aussi un héritage de cette époque soviétique où il y avait un décalage entre la version officielle, entre la propagande et les réels politiques, hein, quelque part derrière. Mais tout ceci, à quel point, à votre avis, ça explique ce que la Russie fait aujourd'hui?
Je pense que, effectivement, nous sommes dans les démocraties confrontés à une manière de faire de la politique qui nous est profondément étrangère quand on n'a pas eu l'expérience de travailler et de négocier avec des interlocuteurs en Russie. Pourquoi? Essentiellement parce qu'effectivement, la parole politique n'est pas dite en Russie pour dire le vrai, mais pour signifier une ligne et une intention. Et pour établir des objectifs. Tandis que dans les démocraties, nous partons du principe que nous communiquons en transparence ce qui nous semble être préférable et ce qui est de l'ordre du vrai. Donc nous essayons de cerner et de dire le plus simplement possible le réel. En Russie, la parole politique est performative, mais au sens où elle énonce une position et où elle annonce des actes. Alors que nous, elle ouvre en principe un débat et elle invite à nous rejoindre sur des positions. Je pense qu'il y a un héritage soviétique indéniable dans la perception du rôle de la parole et dans le fossé qui éloigne parole et réalité. C'est-à-dire qu'après 80 ans de communisme où le bien de l'humanité était en permanence évoqué comme un objectif et comme une raison d'être, alors que cela passait par une répression généralement accrue, brutale et sanguinaire sur la population justement, des Russes d'aujourd'hui, ne croit plus ni dans les déclarations, ni dans le fait que la politique puisse être menée pour le bien de la population. Il y a donc une méfiance profonde vis-à-vis des discours, notamment dans la population, mais aussi parmi les dirigeants, même si eux-mêmes produisent des discours en direction de leurs élus. Et quand eux, nous sommes amenés à négocier avec eux, ils ne comprennent pas généralement pourquoi nous faisons assaut de discours parlant de valeurs et de principes, parce que pour eux, cela évoque d'abord la suspicion et le mensonge. Ce qui fait que nous ne nous rencontrons pas quand nous parlons du monde, nos pratiques politiques sont différentes. Et en Russie, ce que la plupart des Européens ignorent, vous n'intervenez pas librement dans la scène publique. C'est-à-dire que la prise de parole politique dans une démocratie est quasiment suivie, et elle est indolore et elle est en quelque sorte suivie de très peu d'effets. Nous ne risquons rien par une prise de parole. Dans le système russe, les acteurs politiques, les entrepreneurs politiques peuvent tout perdre pour une mauvaise prise de parole, perdre leurs emplois, perdre l'accès de leurs enfants à l'université et voir leur carrière s'arrêter, perdre leur source de revenus. Et donc, il en découle que lorsque vous prenez position sur la scène publique en Russie, vous vous êtes d'abord concerté avec les principaux acteurs et vous dites ce qu'il faut que vous disiez pour pouvoir vous maintenir dans l'arène politique. Et nous sommes généralement en Europe assez ignorants de ce distinguo. Et c'est pour ça que notre parole est souvent porteuse d'effets que nous ne contrôlons pas et que nous n'obtenons pas les objectifs que nous poursuivons. Par notre prise de parole, il y a un malentendu fondamental. Ce que nous faisons quand nous parlons et ce que font les acteurs politiques russes quand ils parlent sont deux choses profondément différentes.
Oui, tout à fait. Le chapitre final de votre livre s'intitule Sortir de la fascination. Dans ce chapitre, vous parlez beaucoup de voies de sortie, comment faire de la sorte que ce nouveau paradigme s'installe pour de bon, pour voir la réalité en face. D'ailleurs, le terme réaliste, réalisme, c'est un terme que vous utilisez beaucoup dans ce chapitre. Alors, ma dernière question à vous serait, comment est-ce que la France pourrait sortir de cette fascination et avec quels moyens, avec quelle méthode?
Alors, c'est une excellente question. Et sur le réalisme, j'aimerais ajouter que généralement, ceux qui se sont emparés du terme de réalisme reprochaient aux critiques du régime russe de passer sous silence et de mépriser les intérêts nationaux de la France. Moi, je dis au contraire que le réalisme veut que nous prenions la mesure de ce qu'est devenu le régime russe et qu'il est plutôt dans notre intérêt, en tant que régime démocratique et européen, de nous allier avec des régimes qui partagent les mêmes valeurs, parce que nous ne pouvons pas être alliés durablement d'un régime oppressif sans que cela ne déteigne sur la qualité de notre vie politique. Je dis simplement que en s'emparant, si nous nous alignons sur les intérêts de la Russie, alors nous cesserons progressivement d'être une démocratie de plein droit. Ce que nous pouvons faire, c'est regarder le régime russe en face. Pour ceci, nous pouvons nous rapprocher non seulement des voisins de la Russie qui ont eu à souffrir ou qui souffrent encore, comme l'Ukraine, de l'impérialisme russe. Nous pouvons écouter les Russes qui essayent de se libérer de ce gouvernement et nous pouvons favoriser nos relations avec les Russes et les voisins de la Russie qui partagent les valeurs démocratiques et libérales de l'Europe, de manière à consolider notre puissance et à consolider notre modèle de gouvernance. Et de cette manière-là, nous renforcerons notre influence et nous pourrons aussi exercer cette influence sur la Russie. Je pense que pour ceux qui sont partisans d'une Europe qui aille de l'Atlantique à l'Oural, il n'y a pas de meilleur partenaire qu'une Russie démocratique, de manière à ramener la stabilité et la sécurité en Europe. On ne peut pas compter sur un État violent, autocrate et de plus en plus impérialiste pour être le garant de la stabilité en Europe. C'est une erreur rationnelle évidente que de faire ce genre de calcul, surtout quand depuis 30 ans, nous avons eu la démonstration du contraire, c'est-à-dire que accéder aux demandes russes de faire des compromis territoriaux et de leur donner le contrôle de la souveraineté de leurs voisins n'a fait que renforcer l'impérialisme russe quand nous pensions qu'il allait au contraire, le rassasier et l'éteindre.
Oui, toute dernière chose, donc cette démocratie, cette Russie démocratique, est-ce que elle sera possible selon vous, puisque là, Pour en arriver là, il faudrait tout d'abord une défaite militaire, n'est-ce pas? Puisque le régime de Poutine, tant qu'il est en place, il ne pourra pas se démocratiser, n'est-ce pas, de l'intérieur. Et avec la disparition, la défaite du régime russe, ce qui est à attendre aussi, c'est la décomposition, n'est-ce pas, de tout le continent. Il n'est pas exclu le scénario de la décomposition de la Russie. Bien sûr que ce scénario, il est un peu tabou pour l'instant. On comprend qu'il suscite beaucoup d'inquiétude en Europe parce que faire avec un pays avec l'arme nucléaire qui se décompose en 10 ou 15 États indépendants. Mais comme vous l'avez dit vous-même dans votre livre, que la Russie n'est pas homogène, donc on ne peut pas exclure, voilà, regarder les réalités en face, c'est aussi d'accepter une éventuelle décomposition et ensuite démocratisation, parce que si on arrive à avoir des États-nations dans ce territoire immense, on pourrait avoir toute une autre configuration du continent européen avec beaucoup plus de sécurité et beaucoup plus d'espérance de la paix durable.
Absolument. Je dirais que le scénario le plus souhaitable et le plus stable pour nous, en réalité à long terme, c'est une démocratisation de la Russie. Mais le scénario le plus proche et le plus souhaitable en termes d'horizon temporel, ce serait une défaite militaire de la Russie en Ukraine, qui serait réimportée finalement dans le débat de politique intérieure russe sous la forme d'une chose, une leçon, c'est que l'impérialisme ne paye pas. Et qu'il faut donc poursuivre les intérêts de la Russie sous une autre forme, une forme pacifique, une forme de modèle d'influence. On peut se contenter tout simplement de voir l'impérialisme russe refluer, les troupes russes quitter la totalité du territoire ukrainien. Ça doit être l'objectif minimal. Et l'objectif maximal, si on veut regarder à plus long terme, c'est d'accepter une transformation ou de favoriser une transformation de la Russie en un régime plus démocratique et plus stable, que ce soit un régime semblable au nôtre, ce qui semble quasiment utopique, ou un régime qui, en tout cas, renoncerait à l'utilisation de la force pour faire valoir ses intérêts à l'extérieur de ses frontières. Il y a plusieurs tensions, plusieurs segments et plusieurs Russies à l'intérieur de la Russie. Généralement, effectivement, en Europe, quand on considère une évolution radicale du régime en Russie, on a d'abord un réflexe de crainte, puisqu'on craint l'effondrement. Il n'est pas dit que cet effondrement se traduise par une catastrophe s'il avait lieu. Ce serait peut-être d'ailleurs une transformation plutôt qu'un effondrement. Mais on peut aussi tout à fait envisager que le système actuel ne voit plus en Vladimir Poutine un défenseur efficace de ses intérêts et le remplace par un autre dirigeant qui, lui, défendrait toujours les intérêts de la Russie, mais qui renoncerait à cette guerre en Ukraine et qui renoncerait même temporairement à l'usage de la force pour défendre les intérêts russes. Et à partir de là, un autre dialogue serait possible avec la Russie.
Merci beaucoup Elsa pour cet entretien. Merci beaucoup pour cet ouvrage qu'on recommande à nos auditeurs. La fascination russe, pourquoi elle est en France, pourquoi elle existe en France et comment s'en sortir surtout. Merci beaucoup.
Merci à vous, Tatiana.
C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction russe à RFI, auteur de l'ouvrage La fascination russe. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.